RCF.
Vous êtes sur RCF, l'heure du 18-19 en région avec Alexis Claudretz.
Le 18-19 régional ce mercredi avec nos amis de RCF Cœur de Champagne du côté de Cézanne, d'Épernay, de Sainte-Menou, de Vitry-le-François, de Châlons-en-Champagne bien évidemment, nos amis de RCF Reims-Ardennes, à Vouziers, à Sedan, à Rethel, à Charleville-Mézières, où que vous soyez sur le territoire, quoi qu'il en soit, on est très heureux de vous accompagner avec Robert Reverger à mes côtés. Robert, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
Et un mot que vous allez nous présenter dans quelques instants, ce soir, de quoi s'agit-il ?
Eh bien c'est le mot logement.
Et encore une fois, c'est dans l'actualité, on aura l'occasion d'y revenir. On vous retrouve dans quelques secondes. On présentera un certain nombre d'initiatives diocésaines, notamment pour le diocèse de Reims et des Ardennes, avec un camp ski et prière organisé dans le massif du Vercors. Le Père Baptiste Bienvenu sera avec Guilin, Juliette et Alexis, trois des 56 jeunes qui sont partis à l'aventure. Et puis nous serons également avec un des accompagnateurs, Éloi Deglaire. On aura l'occasion, en cette période de 40 jours qui nous mène jusqu'à la fête de Pâques, d'évoquer le carême, avec deux témoignages ce soir, celui de Sœur Claire Bénédicte, Sœur Clarisse dans le diocèse de Reims et des Ardennes, mais aussi avec le témoignage du Père André Roussel qui est prêtre dans notre diocèse. On fera un focus sur le cinéma et en particulier sur le réalisateur, scénariste et producteur franco-américain Damien Chazelle qui sera dans l'œil de Lise. Et puis on donnera quelques nouvelles des virus de l'hiver et des problématiques du printemps qui arrivent dès maintenant avec le docteur Hervé Runard, président des syndicats des médecins généralistes de la Marne. Ça, c'est pour le sommaire de ce magazine régional. À 18h12 pétante, Robert Reverger attend son tour. Robert, bonjour.
Bonjour Alexis.
Notre mot du jour?
Eh bien, je vous l'ai dit, c'est logement.
Un des mots d'actualité pour pointer l'une des crises que nous traversons, la fameuse crise du logement, Robert Reverger.
Tout à fait, oui. Parmi les problèmes sociaux que notre société tente depuis longtemps, hélas, de résoudre, à côté, entre autres, de celui du travail, de la santé ou de l'enseignement, je crois que l'un des plus graves, des plus urgents, est le problème du logement, condition sine qua non, on ne l'oublie pas, de la cohésion sociale.
Quel est l'historique, Robert, de ce mot « logement » ?
Eh bien, il fait partie d'une famille qui est très riche et très ancienne, dont les racines sont « loge » et « logé ». Alors, cette famille de mots nous vient d'une civilisation précise, celle des Francs. Rappelons que le mot « franc » signifie les hommes libres qui sont venus en Gaule du Nord et qui ont donné son nom à la France.
Logement est donc à l'origine un mot germanique. Si l'on revient sur l'origine vraiment de ce mot, quelle est-elle ?
Eh bien, effectivement, à l'origine, c'est un mot germanique. Alors, je ne suis pas certain de la prononciation, « laube ». Mais au fil du temps, on peut dire qu'il est devenu européen. À l'origine, il ne signifiait pas d'ailleurs maison, mais simplement abri, auvent et même cabane de branchage.
Si l'on fait le cheminement, Robert Reverger, quel va être le cheminement du logement avant d'en arriver à son sens actuel ?
Au XIIe siècle, le verbe loger prend un sens militaire, le logement étant alors le campement d'une troupe, ce qui traduit les civilisations de ces populations nomades et guerrières qui parcourent d'ailleurs à l'époque un empire romain en plein délabrement. Alors ces populations vont ensuite se fixer dans plusieurs pays européens.
Dont les Francs en Gaule, dont vous nous parliez il y a quelques instants, peut-on alors parler de civilisation urbaine ?
Non, on n'en était pas encore là, même si au Moyen-Âge, quelques rares grandes villes réapparaissent avant de se multiplier à la Renaissance, mais ce ne sera qu'au XVIIe siècle que loger et logement vont changer de sens.
Quelles sont les raisons qui font que ces mots vont changer de sens ?
Peu à peu, la maison en pierre va remplacer la hutte en bois, la ville, héritière de la ville romaine, l'URPS, qui donnera urbain et urbanisme, remplace le campement. La maison remplace l'abri. Ces mots enregistrent donc une évolution. À côté de logement est apparu logis, aujourd'hui un peu vieilli.
Sauf pour parler des sans-logis, actualisés en SDF, sans domicile fixe.
C'est vrai, on trouve aussi le mot logis dans d'autres expressions. Selon Voltaire, l'imagination est la folle du logis. Quant à la personne qui s'occupe remarquablement de son intérieur, c'est une fée du logis.
On trouve aussi le mot logis dans la sphère militaire, dans la gendarmerie, avec le grade de maréchal des logis, par exemple, Robert Reverger.
Oui, mais aussi dans la cavalerie et l'artillerie, grade qui correspond à celui de sergent dans l'infanterie ou second maître dans la marine.
Je sens que vous avez aujourd'hui envie de nous emmener justement dans ces différents corps de métier. Restons encore un peu dans l'histoire, si vous le voulez bien. De quand date le grade de maréchal des logis, alors ?
Eh bien, le grade est créé à la fin du XVIe siècle par Henri IV. Le maréchal des logis a alors l'unique responsabilité des écuries. Les effectifs des armées vont ensuite se multiplier, au risque de créer des divisions, des cassures qui les affaibliraient au cours des combats. Alors, la charge du maréchal des logis ne se limite plus alors à la gestion des écuries. Il doit aussi savoir comment faire mouvoir cette masse énorme de soldats en campagne, mais aussi gérer le stationnement de cette armée.
C'est-à-dire, en quelque sorte, savoir la loger ?
Exactement, c'est-à-dire affecter des logis aux soldats si l'on s'arrête dans un village ou bien créer des camps si l'on stationne en campagne.
Voilà pour ce qui est de l'histoire alors, Robert.
Oui, de la petite histoire.
La crise du logement, alors là c'est vraiment l'un des problèmes récurrents de notre société et qui est un problème actuel.
Oui, et ce n'est pas nouveau. Hélas, les historiens font remonter la crise du logement à 1850, qui est la date de la première intervention publique pour traiter l'habitat populaire des villes, dont l'insalubrité était jugée responsable de l'épidémie de choléra de 1832, qui fit, rappelons-le, plus de 18 000 victimes. Depuis lors, de nombreuses réformes ont été tentées, hélas, encore une fois, sans grand succès.
Pour faire un petit flashback dans le temps, de quand date le droit au logement actuel en France ?
Eh bien, la loi Quillot, qui date de 1982, puis deux lois de 1989 et 1990, énonce que le droit à l'habitat est un droit fondamental.
Ces lois ne semblent pas avoir eu des résultats probants.
Hélas.
Comment on explique cela ? Quelles en sont les raisons ?
Mais écoutez, personnellement, je n'en sais rien, mais je lisais récemment un article de Jean-Claude Briand, qui est quand même professeur à l'Institut d'urbanisme de Paris, et ça posait question.
En résumé, que disait cet article ?
Eh bien, cet article disait que les lois actuelles, souvent amendées, restent trop compliquées et trop souvent éloignées des réalités économiques et sociales avec des incohérences pour pouvoir être vraiment appliquées, ce qui laisse entendre que résoudre la crise du logement peut prendre encore un certain temps, voire un temps certain.
Merci Robert Reverger de nous avoir parlé aujourd'hui du logement. Ça ne sera pas la semaine prochaine, mais lors de votre prochaine émission, quel sera le mot, Robert ?
Cohésion.
Cohésion. Eh bien, en attendant, nous, on vous souhaite de très bonnes vacances parce que je crois que la semaine prochaine, vous prenez un petit peu de répit. Vous avez bien raison.
Tout à fait. Je vous remercie. À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Avec nous par téléphone, on retrouve désormais le Père Baptiste. Bienvenue en plein camp ski et prière, notamment avec le Père Maxime Labesse, d'autres animateurs et surtout beaucoup de jeunes du diocèse de Reims et des Ardennes. Baptiste, bienvenue, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous.
Ce camp ski et prière, c'est un petit peu devenu l'événement des vacances de février pour le diocèse de Reims et des Ardennes.
Ah oui, ça devient une habitude. Tous les ans, on a l'habitude d'envoyer un certain nombre de jeunes pour ce camp. Ce moment vraiment intense dans tous les sens du terme, au niveau de la foi, au niveau de la fraternité. Enfin voilà, on vit tous les ans un moment exceptionnel durant ce camp ski.
Et cette année, ce sont combien de jeunes qui sont partis en voyage, Père Baptiste, bienvenue ?
Alors nous sommes partis avec 56 jeunes du diocèse de Reims et des Ardennes, et environ, disons. Voilà. Il y a des amis du diocèse de Reims et des Ardennes qui partent aussi avec nous. Donc 56 jeunes et une quinzaine d'animateurs.
C'est ce que l'on va entendre tout à l'heure, notamment avec certains des témoignages de jeunes qui sont à vos côtés. On pense à Guilin, à Juliette, à Alexis, qu'on va retrouver dans quelques instants. Le camp ski et prière, Baptiste, bienvenue. Finalement, c'est quoi l'idée ? C'est à la fois de s'amuser et de s'initier ou de se renforcer dans la foi, tous ensemble, entre jeunes plutôt ?
Exactement. L'idée, c'est de vivre un temps dans un lieu idéal, autour d'une activité qui rassemble, qui attire, le ski, dans un environnement très beau, voilà, la montagne, c'est un lieu magnifique, hein. On voit des paysages extraordinaires, un lieu très symbolique aussi, parce que voilà, cette année, on médite tout particulièrement sur la montagne, on monte la montagne avec Jésus, hein. Ce dimanche, on avait l'évangile de la Transfiguration, donc c'est le lieu où on s'élève aussi vers Dieu. Donc il y a à la fois cette ambiance fraternelle qui est là, présente, l'activité de ski, et donc tout ça pour nous porter finalement à réfléchir ensemble sur des questions de foi et de prière, voilà, tous ensemble.
On reste avec vous dans le massif du Vercors, Père Baptiste, bienvenue, et puis on va peut-être passer la parole aux jeunes, à commencer par Guilin, qui est certainement un des plus jeunes, à 11 ans, Guilin qui vient de Pont-Favergé. Guilin, bonjour.
Bonjour.
Alors toi, tu viens de Pont-Favergé et c'est la toute première fois que tu pars en camp ski et prière avec le diocèse de Reims et des Ardennes. Pourquoi avoir eu envie de partir, Guylain ?
De une, parce que sinon j'avais rien à faire de la semaine pour faire du ski, parce qu'on n'y va pas souvent, et pour me rapprocher de Dieu.
Et les initiatives qui sont prises pendant toute cette semaine, ce sont des choses qui te plaisent, qui répondent à tes attentes ?
Oui, oui. On a fait du ski et des veillées, et c'est tout.
Eh bien, raconte-nous comment ça se passe, ces veillées.
C'est des veillées, on joue, des fois. Je vois pas comment expliquer.
Bon, en tout cas, c'est l'occasion de partager des bons moments, on imagine, avec des copains. Toi, tu as 11 ans, Guylain, tu es certainement un des plus jeunes. Tu arrives quand même, parmi les jeunes du diocèse qui sont partis, à te faire des amis et puis à bien profiter de ce moment.
Oui, ça va.
C'est le principal, parce que tu nous as dit que tu étais parti pour ne pas trop t'ennuyer pendant les vacances. Donc, c'est ce qu'on te souhaite, de bien t'amuser, de bien profiter pendant ce camp ski et prière.
Oui.
Merci beaucoup, Guylain. Et puis, on va retrouver, si tu le veux bien, tout de suite, Juliette, qui doit être à tes côtés. Juliette, qui a 16 ans. Et alors là, c'est la surprise. Elle vient d'Avignon, dans le sud de la France. Oui, parce qu'Avignon n'est pas encore dans la carte du diocèse de Reims et des Ardennes. Juliette, bonjour.
Bonjour.
C'est un petit peu la surprise, ça, finalement. Comme le disait Baptiste Bienvenu il y a quelques instants, dans ce camp ski et prière dans le massif du Vercors, organisé par le diocèse de Reims et des Ardennes, il y a des jeunes du diocèse et puis il y a des jeunes qui viennent d'ailleurs, dont toi, d'Avignon. Comment ça se fait que tu te retrouves dans cette aventure, Juliette ?
C'est tout simple. En fait, j'ai une de mes meilleures amies qui a déjà fait ce camp ski prière et donc elle m'a invitée à venir le faire avec elle et donc je suis ravie de le faire. Et de plus, en fait, avant, je vivais à Reims et donc je connaissais aussi déjà un petit peu le diocèse et tout, donc j'étais contente de revoir du monde que je pouvais potentiellement connaître et tout.
Et alors, comment ça se passe ce camp ski et prière pour toi à 16 ans ? Qu'est-ce qui vraiment est le leitmotiv de ces quelques jours que vous passez ensemble entre jeunes ?
Franchement, moi j'aime beaucoup le camp ski prière. Déjà, j'adore skier. En plus, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Et puis, je trouve qu'on a un bon groupe tous ensemble. On est tous soudés, on passe tous des bons moments. Et puis, avec aussi le côté religieux, on apporte des sujets qui sont vraiment intéressants. Puis aussi, on a un autre point de vue sur la foi grâce aux prêtres et aux frères qui nous accompagnent. Ça, franchement, j'aime beaucoup.
Quelques exemples de sujets sur lesquels vous avez échangé en début de semaine pour l'instant ?
En fait, en ce moment, on étudie un texte de la Bible. Et à chaque fois, chaque jour, on étudie un paragraphe. Et là, on était un peu sur Jésus qui est transfiguré. Et j'avais jamais vraiment compris ce transfiguré, qu'est-ce que c'était. En fait, c'était transformé. On apprenait sa divinité. Et en fait, à travers ça, et donc ce chemin-là et ses apôtres, Jésus et c'est la Bible nous disait qu'il fallait qu'on apprenne à devenir comme lui et à suivre ses pas. Et pour un jour, nous aussi, être transfigurés et pouvoir être plus proche de Dieu.
Eh bien, en tout cas, un grand merci, Juliette, pour ton témoignage. Et puis, on te souhaite de bien t'amuser avec tous tes amis. Je crois que autour de toi, il y a un jeune homme qui s'appelle Alexis, qui a 18 ans. Lui, par contre, c'est un habitué du camp ski et prière. Alexis, bonjour.
Bonjour.
Toi, tu es un habitué du camp ski et prière, nous disait Baptiste Bienvenu.
C'est ça, c'est ça.
Alors, lorsque l'on y retourne d'année en année, on imagine que la formule, elle plaît. Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'y retourner chaque année ?
Le fait déjà de retrouver les gens que je vois qu'une semaine par an, grâce à ce camp. Et puis la fraternité qui en ressort, les amitiés qui se créent, et tout ça.
Vous êtes 56 jeunes à partir, tu fais partie de ceux-là, tu as 18 ans. Bientôt, tu vas presque pouvoir passer de l'autre côté, du côté des animateurs, j'allais dire, Alexis.
C'est ça, c'est ma dernière année en tant que jeune, je pense. Et voilà, je suis ravi d'être là pour une dernière année en tant que jeune, et puis on verra la suite.
Et toi qui as vécu différentes éditions de ce camp ski et prière, est-ce que tous les camps ski et prière se ressemblent ? Parce que tu le disais, finalement, on peut retrouver certaines personnes, etc. Ou est-ce que, mine de rien, il y a des différences et tu sens que tu avances et que tu chemines différemment sur le chemin de la foi d'année en année ?
D'année en année, ça ne se ressemble pas. C'est chaque fois un nouveau camp, que ce soit les mêmes organisateurs. Mais non, parce que chaque année, ça change, il y a des petits détails qui changent et cela fait que ce n'est pas le même à chaque fois et je trouve ça génial parce que toutes les années, ils se renouvellent, ils changent d'idées, ils en apportent de nouvelles. Et voilà, ce n'est jamais la même routine, le même quotidien et c'est ça qui fait le charme de ce camp en fait.
Eh bien en tout cas, un grand merci Alexis de nous raconter avec tes camarades Guylain et Juliette comment ça se passe à ce camp ski et prière. Je crois qu'à vos côtés, il y a notamment Éloi Deglaire, un des animateurs qui accompagne aussi ce camp. Si on peut être en ligne avec Éloi. Éloi, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Éloi, vous faites partie d'un des 15 animateurs qui êtes parti du côté de ce camp ski et prière. Pourquoi avoir voulu mettre cette casquette d'animateur pour accompagner ces jeunes, Éloi ?
C'est le troisième camp que j'accompagne. Donc effectivement, c'est que la formule plaît. Moi, j'affectionne beaucoup ce genre de rassemblement puisque c'est vraiment l'école, je dirais, de la vie, entre guillemets, un peu à l'ancienne, quoi, qui correspond bien. Et je crois que l'on perd de plus en plus dans notre société d'aujourd'hui. On a des jeunes qui sont régulièrement au service pour faire tout un tas de tâches pour le bien-être de tous. On travaille sur le pardon, sur plein de valeurs essentielles. Le décrochage aussi de tout ce qui est technologie, tout ce qui peut souvent occuper le temps des jeunes pour se rapprocher davantage de vraies relations avec les autres, de fraternité, d'amitié et puis bien sûr aussi pouvoir se rapprocher de Dieu, qui plus est pendant le temps de carême. Voilà.
Le fait d'être une équipe d'animateurs quand même plutôt jeune, avec des prêtres qui sont aussi dans une nouvelle dynamique pour ce diocèse de Reims et des Ardennes, et d'être proche de ces jeunes, ça permet aussi peut-être d'échanger plus facilement par rapport à ce qu'ils pourraient le faire avec leurs parents ou des gens de leur famille, parce qu'ils ont l'impression d'être proches de vous en termes de génération, en termes de compréhension sur des sujets, et pouvoir les aborder différemment aussi, on imagine, Éloi de Glaire.
Bien sûr, que le Père Baptiste disait qu'on étudiait le texte de la Transfiguration, il est notamment stipulé que Jésus emmène ses disciples à l'écart. Et effectivement, on est nous aussi à l'écart, et qui plus est, avec une équipe encadrante, jeune, et notamment en ce qui concerne les prêtres et les frères. Donc non seulement il y a, je pense, une certaine possibilité aux jeunes de se libérer dans la foi, de par le fait que autour d'eux, y a des jeunes qui sont aussi là pour ça, et le message est unanime, donc c'est toujours plus facile de s'y insérer. Et puis échanger avec des prêtres et des frères jeunes et proches d'eux et proches des idées, c'est très porteur. Voilà. J'en profite pour le diocèse, c'est vraiment une vraie chance pour les jeunes, s'il y en a encore qui hésitent à vivre cette expérience-là. Et d'ailleurs, de manière générale, l'expérience des camps, puisqu'il n'y a pas que le ski, c'est vraiment très bien, une très belle proposition.
Et c'est également une très belle promotion que vous faites là, Éloi de Glaire. En tout cas, un grand merci d'avoir témoigné avec les jeunes qui étaient à vos côtés aujourd'hui, Guilin, Juliette, Alexis. Ce sont trois parmi les 56 également que vous accompagnez, Éloi, avec 15 accompagnateurs, dont le Père Baptiste Bienvenue. On pense aussi au Père Maxime Labesse notamment, mais vous n'êtes pas les seuls à être sur le pont. Et on vous remercie pour cette action pour les jeunes du diocèse de Reims et des Ardennes. Et puis on vous dit à très bientôt.
Eh bien, à bientôt et merci.
Bonne fin de semaine dans le Vercors. Donc, nous, on reste dans le diocèse de Reims et des Ardennes.
Le 18-19 sur RCF.
Puisqu'à l'occasion du carême sur RCF Reims-Ardennes, nous allons à la rencontre des prêtres, des religieux, des religieuses du diocèse de Reims et des Ardennes dans le 3 questions A de 7h40 du lundi au vendredi. Aujourd'hui, sœur Claire Bénédicte de la communauté des Clarisses à Cormontreuil nous dit ce que représente ce temps fort du calendrier chrétien pour elle.
Alors d'abord, c'est un temps d'une plus grande sobriété aussi, donc qui se manifeste de différentes manières. Dans la liturgie et aussi au niveau alimentaire, au niveau rythme, avec des temps de prière privilégiés. Et puis c'est aussi un temps de retour. Cet appel que je ressens pour ce carême, c'est l'intériorité et une invitation à me remettre devant le Seigneur et revenir au lieu du cœur pour me laisser transformer, renouveler par le Seigneur, son amour, son alliance.
Quand vous dites que c'est pendant ce carême que vous ressentez ça de cette manière plus précise, est-ce que ça veut dire que c'est vraiment ce sentiment que vous avez pour ce carême en 2024, ou c'est un sentiment qui vous a déjà animé par le passé lors d'autres périodes de carême ?
Ce qui m'embête, c'est le mot simplicité. Revenir à une simplicité de vie dans notre prière, dans notre manière de s'alimenter, de garder aussi un silence plus intérieur, se recentrer sur soi aussi. C'est aussi un moment de conversion, de retour au Seigneur. On a toujours on se laisse disperser, agiter, tout ça. Et donc, un temps aussi, on se rassemble plus intérieurement. On se recentre sur le Seigneur.
Sœur Claire Bénédicte, le temps du carême est souvent associé dans l'esprit des chrétiens à un temps de privation. Est-ce que vous-même, sur le plan personnel, vous concevez à faire des efforts un peu plus particuliers, un peu plus profonds pendant cette période du carême ?
Bon oui, il y a toujours à se dire à quoi je suis attachée. Donc c'est un temps aussi de... Oui, à quoi je suis attachée, à quoi le Seigneur m'invite. Alors ça peut être au niveau alimentation, mais ça peut être autre chose, dans le choix des lectures aussi. Voilà, un temps aussi, et ça, on l'a beaucoup dans la parole, un temps de libération. Si je me prive, c'est pas pour me priver pour me priver, mais c'est un temps aussi de plus grande liberté intérieure. Le peuple de Dieu dans le désert, Seigneur, il le conduit vers une terre de liberté. Voilà, un temps de libération.
Sœur Claire Bénédicte qui complétera son témoignage avec une deuxième partie demain à 7h40 sur RCF France Ardennes. Vous pouvez aussi l'entendre demain soir dans le magazine régional. Tous les numéros sont à retrouver dans la rubrique programme sur le site rcf.fr. Tout de suite à 18h30, c'est le journal régional. Avec les titres de ce mercredi 28 février, l'ensemble Calicia de l'école de musique de Venerque vient de Haute-Garonne pour se produire dans les Ardennes au mois d'avril. Présentation. Les diocèses de la province de Reims ont lancé la nouvelle campagne du denier du culte, une campagne qui démarre plutôt bien pour le diocèse de Chalon.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
L'ensemble instrumental Calicia de l'école de musique de Venerque résonnera bientôt dans les Ardennes, venu de Haute-Garonne. Une tournée exceptionnelle est organisée dans le département lors des vacances scolaires d'avril pour que tous les musiciens, même les plus jeunes, puissent faire le déplacement. Nathalie Masson, accordéoniste dans l'ensemble Calicia, présente le projet au téléphone avec la rédaction de RCF en Ardennes.
Alors je dirais simplement que l'idée venant d'Elzbieta qui a su faire ça déjà une fois donc en Pologne, certains d'entre nous avaient envie de continuer l'aventure et puis des petits nouveaux à suivre le mouvement. Donc on a réuni les gens en leur expliquant notre projet et notre rêve. Et puis certains d'entre eux peuvent nous suivre et on a dû constituer une petite équipe de 5-6 personnes, c'est-à-dire nos conjoints par exemple. Et puis nous travaillons d'arrache-pied tous les jours pour allier l'utile à l'agréable en imaginant et en créant un circuit touristique à travers les Ardennes et les Ardennes belges également. Et sur une période de vacances pour nous, puisque nous avons à ce moment-là du 13 au 20 avril des vacances scolaires à Toulouse qui nous permettent de proposer ça à nos élèves. Et c'est pour la raison pour laquelle nous avons un certain nombre de musiciens qui peuvent nous suivre et qui vont nous rejoindre par avion, des voitures individuelles. Enfin, il y a évidemment toute une logistique à mettre en place et nous y travaillons beaucoup pour que ce projet aille. Mais de toute façon, il ira au bout puisqu'on est déterminés. On a des gens qui nous accompagnent, des mamans qui nous aident là-bas sur place puisqu'on aura des enfants mineurs qui vont nous suivre. Voilà, il y a une grande confiance entre nous et surtout une histoire d'amitié énorme qui permet ça.
Entretien complet à retrouver sur le site rcf.fr dans la rubrique programme de votre radio RCF France Ardennes en sélectionnant les échos du Rotellois Nathalie Masson, accordéoniste, et Elzbieta Isnar, chef d'orchestre de l'ensemble Calicia, répondent à nos questions. Et puis on n'oublie pas de vous donner les dates des spectacles à cocher dans l'agenda, au moins quelques-unes. Le lundi 15 avril à la Basilique Notre-Dame d'Espérance de Charleville-Mézières à 20h30, le mercredi 17 avril à 19h30 à l'amphithéâtre Pierre Mendès France de Sedan, le jeudi 18 avril à 19h30 à la médiathèque Voyelle de Charleville-Mézières et le vendredi 19 avril à 18h en l'église d'Asfeld. On reste en musique avec dès maintenant des places à réserver pour le vendredi 15 mars à partir de 19h à l'espace Flambeau de la maison de quartier Jean Jaurès de Reims. 4 artistes de la scène chanson rémoise, Jean-Pierre Fauré, Lucie Joie, Mathias Ness et Hervé Acriche, leurs accompagnateurs François Barizot et Vincent Bardin, leurs sonorisateurs Benjamin Laboureau ont choisi d'offrir une soirée chantons solidaires au Secours Populaire. Ils croiseront leurs univers et leur répertoire en un spectacle de chansons placé sous le signe de la solidarité. Billetterie, recettes du bar et bénéfices des ventes de livres et CD seront intégralement remis au Secours Populaire français afin d'alimenter une solidarité plus vivante et nécessaire que jamais. Premier concert à 19h30, ouverture des portes à 19h, tarif unique 10€, renseignements et réservations vivement conseillés au 06 27 77 52 63. 06 27 77 52 63. Les sœurs Clarisse viennent de fêter leurs 800 ans de présence à Reims. Mise en scène par la compagnie belge de théâtre religieux Catecado, le spectacle Révolution vous fera parcourir les 8 siècles d'histoire de leur communauté entre rêve et révolution, leur foi et leur résilience, leur créativité et leur engagement pour le respect de la planète et de la fraternité humaine. Les représentations s'adressent à tout public et seront données au monastère Sainte-Claire de Cormontreuil le samedi 2 mars à 20h30 et le dimanche 3 mars à 15h30. Participation aux frais libres à partir de 5€, gratuit pour les enfants. Rendez-vous au monastère Sainte-Claire, 2 rue Pierre Bérégovoy, 51350 Cormontreuil. Plus d'infos au 03 26 86 95 12. 03 26 86 95 12. Alors que la campagne 2024 pour le denier du culte est lancée depuis quelques semaines, l'économe du diocèse de Châlons, père François de Mianville, souligne un bon démarrage au niveau de son diocèse.
Tellement bien parti qu'on a déjà des retours de chèques, puisque février et mars sont deux mois en début d'année où on a une bonne partie des ressources complétées par novembre-décembre. Ce denier, c'est essentiel à la vie de l'Église, puisque ce denier permet de payer les traitements et salaires du personnel de l'ensemble du diocèse.
La campagne 2023 s'est montrée bien meilleure que celle de 2022.
En 2022, on a perdu 10% de denier et cette année, nous avons réussi à stabiliser donc le denier à donc 900 000 euros. Il en faudrait 1,6 million. On a stabilisé à 900 000 euros alors que d'autres diocèses de la province ecclésiastique ont perdu parfois 5%, 6%, 9%. Donc je pense qu'on peut féliciter les donateurs et bienfaiteurs du diocèse de Châlons qui se sont vraiment mobilisés pour répondre aux appels pressants qu'on avait adressés.
Pour le père François de Mianville, l'objectif de cette campagne 2024 est de maintenir le cap.
Ce qu'on voudrait, c'est maintenir au moins le plateau. Si on pouvait augmenter la collecte, et c'est pas pour demander plus d'argent à ceux qui en demandent déjà, mais c'est pour que ceux qui donnent, parce qu'ils sont conscients qu'il faut donner, partagent cette certitude aux 40% de pratiquants qui ne donnent pas au denier de l'Église. Soit par ignorance, soit parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt, l'importance. Mais en tout cas, voilà, on voudrait faire de ceux qui donnent déjà des ambassadeurs auprès de ceux qui ne donnent pas. Parce que si les 40% donnés, ne serait-ce que 10 € par mois, on aurait déjà quand même une situation qui serait bien meilleure.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Pour soutenir le diocèse de Châlons, rendez-vous sur le site donner-chalon.catholique.fr. 18h37, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF. Dans quelques instants, on évoque de nouveau le carême, cette fois avec le père André Roussel.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Le père André Roussel, prêtre dans le diocèse de Reims et des Ardennes, bien évidemment. André Roussel, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous les auditeurs de RCF.
Merci d'être avec nous ce matin à 7h40 pour répondre à cette question que l'on pose à l'ensemble des prêtres, des religieuses, des religieux du diocèse de Reims et des Ardennes qui veulent bien venir à notre micro pendant ce temps du carême. Que représente le carême pour vous, André Roussel ?
Alors pour moi, le carême, c'est un peu comme une retraite universelle. C'est un chemin, c'est un temps aussi, où tous les chrétiens marchent ensemble et préparent l'événement central de la vie chrétienne qui est la fête de Pâques. Donc c'est un peu comme ce temps de retraite que je relie bien sûr à l'origine, à l'Exode. Nous rappelons bien sûr cette libération des Hébreux, libérés de l'esclavage en Égypte et qui vont séjourner pendant ces 400 ans dans le désert. C'est le temps nécessaire pour la préparation à leur entrée dans la terre promise, qui est bien sûr l'image du ciel. Ça nous rappelle aussi bien sûr les 40 jours de Jésus passés dans le désert pour préparer son entrée dans la vie apostolique. C'est tout ça qui nous habite et qui m'habite en particulier durant ce temps. C'est très important bien sûr de préparer cette fête de Pâques parce que dans la tradition du peuple de Dieu, tous les grands événements, toutes les grandes fêtes étaient précédées d'un temps relativement long de préparation pour célébrer dignement l'événement ou la fête.
Vous-même, Père André Roussel, comment vivez-vous ce temps fort qu'est le carême ?
Ça change relativement peu de choses dans ma vie. Au plan des mortifications, comme on pouvait le sentir autrefois, je ne suis pas très sensible à ces choses. Donc j'essaie de simplifier ma vie habituelle qui est déjà relativement simple. De toute façon, en ce qui concerne l'alimentation, il y a des impératifs médicaux qui nous obligent à réduire et ça aide largement l'ascèse.
On sait que le temps du carême, c'est souvent associé à un temps de privation ou du moins d'effort. Est-ce que vous-même vous consentez à faire quelques efforts un petit peu particuliers ?
Alors bien sûr, j'essaye de faire quelques petits efforts dans la vie. J'essaie d'améliorer un peu le quotidien. Mais je n'ai pas non plus de spiritualité particulière pour préparer ce carême, pour vivre ce carême. Je me contente simplement des textes, les textes au plan de la prière et de la méditation. Je me contente des textes du jour, les textes qui sont proposés soit pour l'Eucharistie, soit pour le bréviaire. où j'estime qu'il y a une nourriture suffisante pour permettre à chacun de trouver ce qui est nécessaire pour vivre ce temps du carême. Donc je suis plutôt branché sur ces textes que la liturgie nous offre chaque jour. Je pense que c'est suffisamment important et suffisamment nourrissant. Je vais faire aussi une expérience un peu particulière, c'est que je vais dans quelques jours participer à une retraite avec les personnes de l'Arche, c'est-à-dire des personnes handicapées, physiques, moteurs ou cérébraux. C'est une expérience très riche parce que je suis en admiration devant ces personnes qui ressentent les choses autrement que nous, mais qui vivent profondément ce temps de méditation, de prière et de recherche. La retraite est surtout bâtie sur tout ce qui est visuel, ce qui est matériel, ça marche par l'image, le chant, etc. Le thème de la retraite, ça sera « La terre, notre sœur nourricière ». Alors, à Saint-Valfroid, on aura largement de quoi voir la terre, la toucher, la sentir, et en même temps, la voir comme un don que nous recevons de Dieu pour nourrir l'humanité. Nous ne manquerons pas non plus d'évoquer cette période difficile que vivent les agriculteurs comme étant un dérèglement de la volonté de Dieu qui donne la terre à tous. Et ce qui est anormal et injuste, c'est que ceux qui travaillent spécialement cette terre n'ont pas la possibilité d'en vivre dignement.
Merci Père André Roussel d'avoir été avec nous et on vous dit à très bientôt.
Merci et au revoir à tous.
Sans transition, à 18h41, vous le savez, c'est les sorties ciné le mercredi, mais ce soir on vous propose un peu d'histoire avec le réalisateur, scénariste et producteur franco-américain Damien Chazelle qui est dans l'œil de Lise.
En 2009, une comédie musicale du nom de Guy and Madeline on Park Bench, sur fond de musique jazz et images en noir et blanc, séduit la critique de beaucoup de festivals mais ne sort que dans un circuit anémique et restreint de salles, ne marquant pas en conséquence un franc succès. Ce court-métrage représente pourtant l'esquisse du film à succès Whiplash, sorti en 2014, qui marque les débuts du talentueux réalisateur et scénariste franco-américain Damien Chazelle dans le monde du cinéma à l'âge seulement de 24 ans. L'amour du cinéma débute tout d'abord chez Damien Chazelle à travers les comédies musicales. Dans une interview pour Deadline en août 2016, il dit lui-même en parlant des Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy « Il y a quelque chose de si beau et poétique, c'est probablement mon film préféré. J'ai donc l'impression que La La Land a commencé là. » Fin de citation. En effet, son film La La Land, réalisé en 2016, en est la parfaite illustration grâce à la fine réanimation de l'âge d'or d'Hollywood qu'il met en place. La La Land est un immense hommage au film de Stanley Donen, Chantons sous la pluie, et Damien Chazelle ne s'en cache pas. On le voit explicitement lorsque Ryan Gosling interprète la chanson Lovely Night et qu'il agrippe un réverbère comme dans la scène culte et pleine de grâce du 7e art avec Jane Kelly. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. De plus, l'importance donnée au studio de Monumental Pictures dans Chantons sous la pluie est aussi visible dans La La Land à travers la volonté de Damien Chazelle de dévoiler les coulisses de l'univers cinématographique, comme on l'observe avec un regard rêveur lorsque Mia et Sébastien flânent au milieu des plateaux. On peut apercevoir aussi des clins d'œil à Un Américain à Paris de Minelli, avec les décors à Paris peints sur des panneaux, à Funny Face de Stanley Donen pour les ballons colorés devant l'Arc de Triomphe, ou encore à Broadway lorsqu'il danse sur un fond étoilé. Vous l'aurez compris, Damien Chazelle est un amoureux du cinéma, et il lui rend perpétuellement hommage. Je crois personnellement que pour un cinéphile, regarder un de ses films, c'est avoir la chance de faire une rencontre inestimable avec un semblable à travers l'écran. D'autre part, pour coller au style des comédies musicales de l'âge d'or, Damien Chazelle s'est beaucoup inspiré des films de Ginger Rogers et Fred Astaire, dont Beau Fixe sur New York, réalisé par Stanley Donen et Jane Kelly. Il va même jusqu'à imiter l'apparence du film en utilisant le format cinémascope des années 1950 pour La La Land et First Man. En effet, l'analyse du choix de la photographie de chacun des films de Damien Chazelle est captivante en vue de leur thématique et style. Alors que la photographie de La La Land se veut très colorée, plastique, presque artificielle, faisant directement écho aux comédies musicales évoquées plus haut, la photographie de Babylone est beaucoup plus sombre, presque embaumée constamment d'une poussière de saleté, revêtant le caractère de débauche. Et enfin, la photographie de First Man et de Whiplash est marquée par une caméra qui se concentre surtout sur les peurs et obsessions des personnages. Dans le cas de Whiplash, cela transmet au spectateur son enfermement psychique dans la musique, et dans le cas de First Man, les angoisses existentielles et mortelles auxquelles fait face le personnage au cours de son parcours en vue de marcher un jour sur la Lune. Ces quatre films font écho, selon moi, au thème de l'illusion et de la désillusion, face à des rêves grands, pour des personnages pleins d'ambition, qui rêvent de succès. Ce sont des personnages plutôt normaux, quoique réellement animés par des passions, qu'ils amènent à des chemins difficiles pour atteindre la réussite. On a l'impression qu'ils sont toujours comme sur le fil, en jonglant entre échec et réussite à des moments différents de leur vie. Il y a alors ce sentiment de frustration et d'acceptation chez le spectateur en regardant les décisions successives des personnages face à leur destin et le chemin qu'ils décident d'emprunter. Dans le film First Man, on voit à travers l'alternance entre vie privée et publique de Neil Armstrong que le personnage fait face à sa propre fragilité et vulnérabilité, en tant qu'homme mortel face à la fois à son ambition dangereuse vis-à-vis de l'espace, mais aussi par le deuil de sa fille qu'il souhaite accomplir autant que son expédition. En effet, cette idée de lutte constante contre la fébrilité et l'importance de maîtriser l'ensemble des facteurs de sa vie peut se retrouver aussi dans Whiplash. Le personnage d'Andrew dans Whiplash ne fait qu'arrêter et reprendre la musique face à un professeur tyrannique qui ne laisse place à aucune humanité. Il est perpétuellement tiraillé entre impression de réussite et sentiment d'échec. De plus, il connaît aussi la désillusion amoureuse, lorsqu'il finit par abandonner sa copine pour la musique, puis regretter ensuite en constatant ses difficultés quant à la batterie et la vie solitaire. Quant au film La La Land, l'amour onirique qu'ont Sébastien et Mia finit par se transformer à la fin en un grand moment de chagrin, d'imagination douloureuse et de sympathie toutefois teintée de regrets face à un amour vite déchu, au départ flamboyant et plein de rêves. Les thèmes d'illusion et de désillusion sont aussi visibles avec Mia, qui au départ rame dans le monde du cinéma, alors que Sébastien, lui, baigne dans un grand succès musical, quoique loin de sa passion originelle. Enfin, dans Babylone, on observe le passage douloureux du muet au parlant, avec le personnage de Jack Conrad, que l'on voit au départ au summum de son ascension, avant de l'observer ensuite retomber douloureusement dans une désillusion sans pitié. Puis quand il s'agit de l'amour, le personnage de Manny, sincèrement amoureux de Nelly, ne fait que la retrouver puis la perdre de nouveau, celle-ci étant profondément volatile et instable. Quant au personnage de Manny, il promet au début du film que le cinéma sera quelque chose de plus grand, et il finit par connaître lui aussi la désillusion dans cette industrie et à entrevoir l'envers du décor. On le remarque à travers les multiples scènes cauchemardesques, presque gore, dans les bas-fonds d'un Los Angeles gangréné par la pègre et la démesure. Damien Chazelle explique sur le cinéma des années 1920, au cours d'une interview accordée à la presse, que la réalité est bien différente de celle qu'on nous a toujours racontée. Le fait est que l'envers du décor était beaucoup plus sombre et décadent. J'ai souhaité montrer la version non censurée de cette époque. Fin de citation. Par ces multiples exemples, on peut donc concrètement envisager les thèmes de désillusion et d'illusion autour des volontés toujours plus ambitieuses des différents personnages. Pour ma part, les scènes évoquées plus haut de débauche de Babylone m'ont fait penser aux pensées philosophiques hédonistes, ou comme l'a écrit Platon dans Gorgias, il s'agit de remplir tous ses désirs à mesure qu'ils éclosent, sans les réprimer. Et par hasard, en lisant en parallèle La peau de chagrin écrit en 1831 par Balzac, j'ai pu établir clairement un lien entre le roman de l'énergie et le film Babylone, car le personnage de Raphaël de Valentin dans le livre et celui de Nelly dans le film choisissent aux dépens de leur santé une vie remplie d'illusions. Ils laissent libre cours à leurs désirs en oubliant les coups décisifs que cela engendre ensuite, à savoir la perdition et la dégradation de soi. Ces deux œuvres artistiques nous amènent à nous poser la question : vaut-il mieux une vie courte et tumultueuse ou une vie longue et stable ? J'aimerais terminer par cette citation du poème Le vin du solitaire de Baudelaire, tiré de son recueil Les fleurs du mal, publié en 1857, car si on remplace le thème du vin par celui du cinéma, je trouve que cela illustre bien cette vision de rêve, d'ambition, d'illusion et de désillusion présente dans les films de cet illustre Damien Chazelle. Tu lui verses l'espoir, la jeunesse et la vie, et l'orgueil, ce trésor de toute gueuserie, qui nous rend triomphants et semblables aux dieux.
Renard pour ce bel hommage à Damien Chazelle, mais aussi à Justin Hurwitz avec ses belles musiques.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h50 avec nos amis de RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. On parle santé pour terminer ce magazine régional ce mercredi avec le docteur Hervé Ruinard, président du syndicat des médecins généralistes de la Marne, au micro de Jean-Pierre.
Docteur Hervé Ruinard, bonjour.
Bonjour.
Il y avait un moment que nous ne nous avons pas reçus, donc on va en prendre quelques nouvelles un petit peu du monde de la santé dans notre région. Alors d'abord, au niveau des maladies, des patients, j'ai l'impression qu'on n'entend pas trop parler de grippe. Il y a quelques temps, il y avait pas mal de personnes enrhumées, j'en ai été moi-même. Comment ça va alors, docteur?
Alors, ça va pas trop mal. Le point de vue infectieux, là actuellement, Covid, grippe, on met de côté pour les gens et les adultes. Par contre, chez les enfants et les adolescents, on a des syndromes grippaux avec des complications respiratoires. Et puis, la saison étant en avance, eh bien, les allergies arrivent déjà.
Et oui, les allergies, le pollen...
Tout à fait. Ça donne des symptômes au niveau des yeux, hein, la conjonctivite, la rhinite, et la complication la plus embêtante, c'est l'asthme allergique.
Est-ce qu'il y a des médicaments pour ça?
Alors, il y a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut. Les gens même anticipent les traitements, ils nous les demandent d'avance, ou un petit coup d'appel, on peut dépanner pour quelques jours si on a des délais de rendez-vous, et puis on voit les gens très rapidement pour leur traitement de 1 à 2 mois selon les personnes en moyenne.
Pour les adolescents, pour les plus jeunes, il y a peut-être un peu encore quelques...
Alors, il y a quelques syndromes grippaux sévères.
Oui.
C'est vrai que maintenant, la vaccination grippale est proposée aux adolescents et aux enfants. Bon, honnêtement, dans les cabinets, on en fait très très peu, sauf des jeunes fragilisés, par exemple, qui n'ont plus de rate ou immunodéprimés, par exemple.
Sur le plan du métier de médecin, la profession de médecin, on sait que c'est toujours un métier en tension, on manque de médecins. Alors, il y a deux questions. Il y en a une déjà, à nouveau, des gardes. Parce qu'on pose toujours la question, y a-t-il des gardes? Y a-t-il une distinction entre le rural et l'urbain, entre la ville et la campagne?
Alors, il y a des différences, effectivement. La campagne est sous un régime de partage avec les médecins par section de département. Hein, tous les départements sont en secteur de garde et donc les cabinets assurent. Donc, de ce côté-là, entre 20h et 24h, il n'y a pas de problème. Les médecins de terrain travaillent et font la garde sur réquisition du CAIN, puisque ça passe par une régulation nécessaire qui permet une cotation d'un acte spécial.
Ça veut dire qu'en campagne, on a peut-être pas trop de problèmes, finalement.
On n'a pas trop de problèmes. Si le problème est grave, bien sûr, il arrive au service des urgences de Reims. Alors, le petit problème, c'est sur certaines villes, Reims, où là, on a SOS qui travaille, et puis la maison médicale de garde qui travaille dans l'enceinte du CHU, où des médecins libéraux volontaires participent à cette maison médicale de garde. Donc, on n'a pas trop de problèmes, mais le service des urgences est quand même un peu encombré.
Parce qu'on avait entendu récemment des déclarations de Monsieur Valtoux, ministre délégué à la Santé, invitant quand même les médecins généralistes à prendre des gardes. On se demandait, et peut-être pour que les urgences soient un petit peu décongestionnées.
Effectivement, mais quand le système est en place, bon ben voilà. Alors actuellement, sur Reims, on est sur volontariat, essentiellement. Alors ce système pourrait passer peut-être sur une obligation par la suite. Encore sur des villes comme Reims, ou dans nos secteurs où on n'est pas trop sous-médicalisés, on peut encore l'entendre. Par contre, dans des régions sous-médicalisées, où les médecins ont déjà des patientèles énormes, font des journées énormes, et on leur dit, en plus, il va falloir vous coller la nuit à travailler jusqu'à minuit, puisqu'en fait, à minuit, ça décroche sur la gare. Là, à ce moment-là, dans la Mayenne, par exemple, enfin, dans le Maine-et-Loire, dans toutes ces pauvres régions, médicalement, je parle, eh bien, là, ça devient très compliqué, et les médecins risquent de refuser ou de ne travailler que sur réquisition.
Donc, le problème ne se pose peut-être moins en Champagne-Ardenne, mais on entend dans différents médias le fait qu'on a du mal à trouver un médecin référent.
Ça reste
tendu quand même.
J'ai quelqu'un de ma famille qui est en Bretagne, en périphérie de Rennes, à 25 km de Rennes. La maman a trouvé pour son petit d'un an, a trouvé un médecin traitant qui lui a dit franchement, je veux bien prendre votre enfant parce qu'il y a un suivi, il y a une prise en charge, vaccination, etc. Mais vous et votre mari, je ne peux pas vous prendre. Voilà, je suis désolé, je prends votre enfant vraiment pas. Voilà, parce que ça fait partie du travail. Mais vous, vraiment, là, moi, je ne peux pas.
Et on l'avait évoqué avec vous régulièrement, puisqu'on fait le point et on le fera, bien sûr, dans les prochains jours, prochaines semaines. Est-ce qu'il y a quand même une tension sur les médecins qui ne veulent pas aller dans les cabinets, qui trouvent que c'est trop lourd, qui veulent avoir une charge un petit peu plus légère?
Il ne peut pas y avoir de pression. en fait. Les jeunes étudiants thésés et les jeunes médecins font un petit peu comme ils veulent pour le moment. Alors il y a Édouard Philippe qui a mis un peu la pression en disant il faut que la profession s'empare un petit peu de sa répartition des jeunes et des médecins, sinon ce qui risque d'arriver, moi c'est un peu la crainte que j'ai, même si on met les holas à chaque fois, c'est qu'il y ait des obligations d'installation dans certains secteurs sous-médicalisés, je dirais pas de force, mais voilà, une contrainte qui viendrait à ce moment-là du politique. Donc effectivement, je pense qu'au niveau syndical, effectivement, il faut qu'on réfléchisse un petit peu comment on peut améliorer l'implantation de jeunes dans des régions sous-médicalisées pour éviter que le politique s'en empare. Parce qu'effectivement, on peut comprendre les populations dans ces régions qui sont un peu sous-médicalisées. Ils ont droit à un service médical. C'est également, voilà, ils payent des impôts comme tout le monde, ils ont le droit aussi.
Alors, on s'interroge sur l'avenir, à savoir sur ce qui va se passer au niveau du tarif des consultations. On avait évoqué 30 euros, c'était presque fait, c'était presque sur le point d'être fait. On sait plus trop parce que ça traîne quand même
un
petit peu.
Oui, alors on a eu un effet d'annonce du 30 euros comme si on y était déjà, alors que c'est absolument pas le cas. Nous sommes toujours sur le règlement arbitraire et arbitral de 26,50 €. Parce que maintenant, à 30 euros, la CNAM, donc la Caisse d'assurance maladie, met des conditions pour avoir le 30 euros, ce qui n'était pas du tout la demande au départ, puisqu'on avait dit c'est 30. Ce n'est qu'un rattrapage, ce n'est pas une augmentation, c'est un rattrapage de 5 ans. Donc effectivement, le 30, il était presque obligatoire. D'ailleurs, ils disent oui, mais... C'était oui, mais maintenant c'est oui, mais il faudra prendre 10% de patients en plus, il faudra, etc., alors que les médecins sont déjà en patientèle chargée. Donc voilà, c'est là les discussions, il y a une prochaine session plénière à la mi-mars, risque d'être quand même très très chaude. Bon, on va pas vers le déconventionnement, mais deux syndicats demandent une montée en puissance des demandes de déconventionnement pour mettre un peu les pressions aux caisses d'assurance maladie. Donc ça, c'est quand même un système de médecine à deux vitesses. À 50 euros non remboursés ou sur une base d'un euro 50 ou 1,75 €, je ne sais plus, c'est quand même assez dramatique. Donc on n'est pas tellement pour ce système-là. Donc voilà, c'est un peu au chat et la souris, mais c'est compliqué.
C'est un peu marginal, docteur, mais tout de même, il peut y avoir la tentation pour certains de demander, j'allais dire, sans être conventionné, comme vous dites, des tarifications plus importantes. Il y aura peut-être toujours un public pour payer.
Alors il y aura toujours, oui, c'est ce que disent
les patients qui payent.
Oui, mais actuellement, si vous les gens disent on est à 50 euros, puisqu'en fait en général c'est le tarif que pratiquent les gens non conventionnés, j'ai quand même suffisamment de travail, je prends une demi-heure. Alors pour moi c'est un procès d'intention aux gens qui sont en secteur, je dirais, normal, puisque quand il faut prendre une demi-heure, on prend une demi-heure. Quand il faut prendre un quart d'heure ou 20 minutes, on prend. Donc il n'y a pas de meilleure médecine chez un médecin déconventionné. On a tous été formés à la même école et on traite pas moins bien parce qu'on a ce secteur. Là, je m'oppose un peu aux gens qui tiennent ce langage parce que c'est un peu discriminant et je trouve que ça n'a pas lieu d'être. On soigne pareil en secteur 1 avec le même soin et quand il faut prendre du temps, on se met en retard et on quitte plus tard le soir.
Merci au docteur Hervé Ruinard, président du syndicat des médecins généralistes de la Marne. Merci à vous, Jean-Pierre. C'est là-dessus que va se refermer le magazine régional le 18-19 en Champagne-Ardenne ce mercredi soir. On se retrouvera demain, jeudi, et je suis sûr que vous avez déjà hâte de découvrir le programme. Alors comme nous avons un petit peu de temps, notamment, je peux d'ores et déjà vous le dire, vous retrouverez Sœur Claire Bénédicte pour la suite de son témoignage consacré à comment elle vit le carême et plus principalement comment elle le vit en communauté avec ses sœurs Clarisse, dont elle fait partie du côté du monastère de Cormontreuil. Le jeudi, sans surprise, nous retrouverons Gérard-Marie-Henri. Demain, nous nous intéresserons à une entreprise internationale qui s'est implantée en France, qui fonctionne bien. Et peut-être que c'est malheureux de le dire, chacun se fera son avis sur la question. C'est McDonald's, ce fast-food donc qui cartonne, mais qui aussi fait fonctionner l'agriculture locale dans un contexte justement où les agriculteurs manifestent et aimeraient être mieux rémunérés. On verra que finalement, McDo n'a pas que des inconvénients à être implanté dans l'Hexagone. Voilà pour quelques problématiques qui seront abordées dans le magazine régional à partir de 18h10. Vos rendez-vous avec l'information, c'est dès 7h du matin sur RCF Cœur de Champagne, sur RCF France-Ardenne. Vous entendrez notamment Marianne Roger et le docteur Thierry Jacoteau à propos d'opérations solidaires organisées par le Secours catholique. On pense au Café Sourire, on pense aux Maraudes. Vous les retrouverez également le soir dans le magazine régional dans quelques instants. C'est l'information nationale qui prend le relais. Vos programmes locaux sont de retour à 19h12. C'était Fabrice Gironnet à la mise en onde. On vous remercie pour votre fidélité et on vous dit à demain 18h10. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.